Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast autour d'un nouvel épisode de Réseau à la Une, le podcast qui débriefe le diagnostic des enseignes en franchise. Je suis Valentine Puot, journaliste à l'officiel de la franchise et suis accompagnée comme à chaque fois de Sylvain Bartholomeu du cabinet Franchise Management.
Réseau à la Une.
Réseau à la Une. Le podcast.
Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous.
Bonjour Valentine.
Alors à chaque fois, vous nous aidez à passer au crible le DIP d'une enseigne dans notre magazine, Réseau qui accepte de nous confier et de vous confier l'ensemble de ces documents juridiques. Vous analysez ensuite ces documents avec vos équipes et nous transmettez alors un indice de performance du réseau, un indice qui a été créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur et la clarté ou non des infos qui figurent dans les documents à l'égard du candidat. Alors à chaque fois, 50 points de contrôle concernant la partie juridique que la rédaction détaille dans ce fameux dossier de 6 pages dans le mensuel. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, Claire Lanneau, dirigeante fondatrice de Baby Bichou Service. Bonjour Claire Lanneau, merci d'être avec nous.
Bonjour Valentine, bonjour Sylvain.
Alors on débriefe tout de suite avec vous votre DIP et la notation qui vous a été accordée, enseigne que nous avions d'ailleurs étudiée dans notre numéro de novembre de l'officiel de la franchise et qui à date regroupe 115 agences en France. Sylvain, de votre côté, quels sont les atouts du réseau que vous avez pu noter et surtout quelle notation avez-vous accordée à Baby Shoe Service ?
Alors ce qu'il faut repréciser, c'est qu'en fait l'évaluation concerne le DIP et le contrat, donc on analyse uniquement la partie juridique. C'est un huitième du diagnostic performance réseau et 50 points de contrôle sur les 400 qui permettent d'analyser l'intégralité d'un franchiseur. On a une évaluation moyenne, donc DIP et contrat à 69%, avec une évaluation du contrat qui est à 76%, donc c'est un contrat qui est dans les plus hauts niveaux de performance constatés, et puis un DIP qui est à 63%, et bon, sur le plan de la conformité légale, il n'y a pas de sujet particulier, on est plutôt sur... des sujets de forme et puis sur des sujets d'actualisation qu'on pourra voir par la suite avec Claire.
Alors, dans votre analyse, Sylvain, vous mentionnez un réseau bien identifié, visible de l'extérieur, avec un maillage en progression également, d'autant qu'on peut le voir, sur le marché, la demande des familles progresse sur le secteur des services à la personne, malgré la hausse du télétravail, mais une enseigne encore monoservice, avec un contrat trop avantageux pour le franchiseur et un manque d'esprit collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pourriez nous détailler ça, Sylvain ?
Bah, en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est quand on regarde la documentation juridique, on la raccroche évidemment à un contexte. Et on est sur un contexte avec une enseigne qui est quand même une des références du marché, d'une part. Et puis d'autre part, on est une enseigne qui est très centrée et ancrée dans l'humain et dans la relation humaine. Et c'est vrai que sur la partie DIP, on ne retrouve pas ça. On retrouve un document qui est très juridique, qu'on a qualifié d'un peu aride et peu marketé. Et c'est vrai que ces éléments-là nous marquent de facto quand on regarde, parce qu'on s'attend à une enseigne notoire, très installée sur le marché, avec une solide expérience, donc qui peut se permettre de le revendiquer. Et on ne le retrouve pas nécessairement dans les documents qu'on a pu analyser. Idem sur le contrat, en fait, on peut afficher un niveau d'exigence et d'engagement assez fort en tant que franchiseur, parce qu'on a une solide expérience, et on ne retrouve pas ça nécessairement dans le contrat. Donc je pense que on arrive parfois à des stades de vie dans les réseaux où il faut se relire en fait sur l'aspect juridique, et se redire qu'est-ce qu'on fait réellement versus qu'est-ce qu'on met en fait dans nos documents juridiques. Et il est possible que Baby Shoe arrive un peu à ce stade-là, où il faut réafficher... ce qu'on est réellement par rapport à ce qu'on a écrit il y a quelques années auparavant.
Alors, Madame Lanneau, je vous propose de réagir. Quel est votre sentiment déjà par rapport à cette analyse qui a été formulée sur votre réseau ?
Alors, tout d'abord, je remercie l'officiel de la franchise et Sylvain Bartholomeu d'avoir pris la peine de travailler aussi bien et aussi en profondeur sur nos documents. Je pense que je partage votre analyse. C'est vrai qu'on a peut-être tendance, c'est peut-être une erreur, et c'est intéressant de le souligner, à mettre toujours le juridique de côté, finalement, comme si c'était un domaine complètement étanche aux autres fonctions qui interviennent dans le cadre d'une relation avec un franchisé. Peut-être aussi qu'on peut se dire que si on ne s'y est pas beaucoup intéressé, peut-être parce qu'on n'a pas eu l'occasion de s'y intéresser, c'est que finalement les contrats, ils restent un peu dans les placards ou dans les clouds maintenant. Donc je prends la remarque et je pense qu'effectivement c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu un développement assez important, on s'est énormément concentré sur l'accompagnement de nos franchisés et on continue à le faire. Et c'est vrai qu'on a moins priorisé finalement les documents qui pour nous étaient peut-être des faces moins visibles de l'entreprise et du type de service qu'on pouvait amener aux franchisés. Donc j'en prends note et effectivement notamment sur l'aspect marketing, marketisation des documents, finalement, sont des documents publics, particulièrement il y a un engagement de confidentialité en face, bien évidemment. Donc, je trouve ça intéressant. J'aimerais réagir au point concernant le niveau d'engagement et d'exigence qui n'est pas forcément mis en avant. C'est assez délicat parce que, bien évidemment, en tant que franchiseur, nous devons nous limiter à un accompagnement et non pas à une gestion à la place du franchisé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, vous ne verrez pas d'objectif dans les contrats de franchise. En revanche, chez nous, nous avons instauré depuis quelques années seulement des quotas. Ces quotas, ils apparaissent bien dans le DIP et dans le contrat de franchise. Ils sont justement là comme des guides de passage de cap pour les franchisés. Et finalement, un franchisé en constante évolution doit passer des caps. Et s'il ne passe pas ses caps, ce sont autant d'alertes que nous devons prendre en compte au niveau de l'animation et plus globalement du réseau. Je considère aussi que l'animation, de plus en plus, c'est un autre sujet, mais a une fonction collective d'être partagée par l'ensemble du réseau. En tout cas, on a bien défini des quotas chaque année. Alors, on laisse en fait, je crois qu'il y a des plages 2 ans par 2 ans, qui permettent aux franchisés, en fonction de leur année de démarrage, du moment du démarrage, dans l'année aussi d'atteindre les quotas. Mais j'en prends note et je prends surtout note du fait que on a le droit de faire du DIP et du contrat finalement un document peut-être plus agréable à lire, peut-être plus agréable et qui conforte finalement le choix qu'on peut avoir par rapport à l'enseigne.
Alors Sylvain, le cabinet Franchise Management a aussi souligné le manque de certaines informations financières à l'égard des candidats à la franchise qui ne permettent pas forcément de connaître les performances des unités du réseau. Pourtant, l'activité demande quand même de savoir se projeter, notamment sur le volume d'heures, les déplacements à prévoir auprès des familles et aussi un manque peut-être de données sur le marché pour pouvoir se repérer, anticiper ou faire son prévisionnel. Je vous laisse réagir et puis ensuite Claire Lanoux, vous pourrez aussi réagir à votre tour.
Ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Claire tout à l'heure, à savoir qu'en fait, le DIP, c'est le dernier élément qui est remis à un candidat au moment où il va rentrer en phase de réflexion. Et la loi Dubin n'impose pas qu'on transmette des informations financières sur les performances des pilotes ou les performances moyennes du réseau, par exemple. Pour autant, on aime toujours les trouver dans les réseaux qui peuvent se permettre de les afficher. Parce qu'encore une fois, c'est un document qui peut être transmis à des banquiers, qui peut être transmis au conseil en fait du candidat, qui peut être transmis aussi à des conseils personnels, la famille, les amis, etc. Au moment de la prise de décision et retrouver en fait des informations qui permettent de comprendre comment se structure en fait le business model d'un franchisé et puis savoir comment les franchisés réussissent en exploitant ce concept, ça a du sens. Ça a du sens parce qu'en fait, ça permet d'éclairer et d'aider à la prise de décision. Donc souvent, c'est transmis en phase de développement un peu en amont, mais ce n'est pas réaffiché dans le DIP parce que ce n'est pas une obligation légale au sens de la loi Dubin et de son décret d'application. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur le marché, l'état général de marché, il date de 2020. Donc on sait qu'on est dans des périodes quand même où les marchés bougent énormément et extrêmement vite. Donc les franchiseurs doivent aussi prendre en compte cet élément-là et actualiser leurs états généraux un peu plus rapidement que on va dire, quand l'économie est dans une phase plus calme. Et c'est vrai qu'entre septembre 2020 et aujourd'hui, début 2023, on a l'impression que 10 ans se sont écoulés Et donc, les états généraux de marché doivent être mis à jour régulièrement. Donc, je pense qu'il y a une petite mise à jour à faire de l'état général de marché pour se retrouver dans un contexte qui est clairement en sortie de Covid, mais avec d'autres défis aujourd'hui économiques. Et puis, il serait intéressant quand même d'intégrer dans le DIP des données moyennes réseau pour permettre d'apprécier en fait la performance du concept.
Madame Lano, je vous laisse réagir.
Oui, merci. Alors, en ce qui concerne les infos financières, il y a des comptes d'un site pilote, en effet. Et d'ailleurs, nous, on a une dizaine de sites pilotes, puisqu'en fait, le site pilote, ce qui peut, j'espère, rassurer les candidats sur la qualité du projet d'Avichou Service. Au début, on avait un site pilote et il a été démultiplié sur le même territoire pour arriver à une dizaine maintenant. Donc on n'a aucun problème, bien évidemment, à fournir cela. On a plutôt tendance, peut-être encore une fois là, à être trop conformiste, j'ai l'impression. Et à dire, on dit dans la loi du bain, il faut fournir les chiffres d'un site pilote et de l'activité de franchise. Bah, c'est ce qu'on fait. Donc on fait bien ce qu'il faut faire, mais peut-être qu'on ne se donne pas la liberté d'aller au-delà. D'autant que dans le réseau, évidemment, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a des indicateurs, que ce soit sur la marge brute, que ce soit sur des taux de transformation, des contacts, des contrats, des devis, etc. Donc, bien évidemment, c'est extrêmement important. Ce que j'entends, c'est qu'on a le droit de le faire. Donc, si on a le droit de le faire, bah, c'est toujours bon à prendre. Par rapport à l'EGM, alors ce qui est délicat, c'est que dans notre métier, le métier des services à la personne est multiforme. Il y a des métiers différents, la garde d'enfants est un des métiers, et nous on a un positionnement de spécialiste qui est complètement revendiqué parce que la garde d'enfants occupe une place à part sur l'échiquier des services à la personne. Obtenir des informations, des sources fiables régulièrement, c'est beaucoup plus compliqué dans nos métiers que par exemple dans la restauration rapide où ça va très vite et les concepts changent ou parfois ne durent pas d'ailleurs. Voilà. Nous, on a une grande stabilité, c'est vrai. On a besoin des chiffres de sources comme la DARES. Et à ma connaissance, la dernière étude DARES, elle date de début 2023. Donc je pense qu'aussi avec le Covid, beaucoup d'organismes qui font référence hein, et qui sont utilisés pour les sources n'avaient pas pu produire leurs documents. Donc c'est certain que aller donner des chiffres de 2020 et 2021, c'est pas très intéressant finalement. Donc nous, notre année de référence, elle restait 2019 et aujourd'hui on a redépassé complètement sur tout le réseau. On a des croissances importantes à nouveau depuis 2021 et 2022. On est sur des croissances de 25% quand même hein, 2021-2022. Donc bien sûr, on va continuer à le faire comme on le faisait, mais avec des données sur lesquelles on peut s'appuyer, fiables et récentes.
Oui, en effet, on sent que ça paraît quand même crucial hein, au vu de la porosité de ce marché. De notre côté, à l'officiel de la franchise, nous avions justement relevé deux chiffres sur le marché du SAP en France, dans ce dossier paru avant l'année 2023, que ce secteur devrait dépasser les 19 milliards d'euros en 2023 et 20 milliards d'euros en 2024. On se rend bien compte du coup que la demande ne cesse de croître pour ce genre de service. Alors, Sylvain, ce dossier a aussi pour but d'aider les enseignes à améliorer la lisibilité de leur documentation, mais aussi aider les enseignes à faire le point. Alors, quels conseils ou remarques vous souhaiteriez donner aujourd'hui à l'enseigne, notamment sur un secteur qui attire aussi de jeunes entrepreneurs?
Je dirais une phrase très simple, prendre conscience de ses forces et oser les afficher. Je pense que c'est très important.
Alors, Madame Lano, un dernier mot pour la fin, peut-être une dernière réaction ou un point à évoquer sur les projets de l'enseigne ou sur ses processus de recrutement de franchisés à l'avenir ou bien peut-être est-ce que vous souhaiteriez évoquer une ou plusieurs évolutions qu'il y a eu au sein du réseau depuis la publication de notre article?
Tout d'abord, rappeler qu'on est sur un marché extrêmement dynamique. Comme je le disais, on a fait 25% de croissance entre 2021 et 2022. Dire aussi que une des meilleures preuves que notre réseau et notre business model marchent, c'est qu'on a 35 à 40% de nos franchisés qui sont en multi-franchise. Aujourd'hui, on a un réseau mature. On sait accompagner nos franchisés aussi bien dans le développement d'un premier point de vente, mais également dans la création ou la reprise, parce que forcément, un réseau aussi, au bout d'un moment, un réseau mature, ça bouge. Il y a des gens qui partent à la retraite ou changent d'activité. Nos franchisés ont plutôt tendance à se développer, à rester longtemps dans le réseau, mais maintenant, on a vraiment acquis cette capacité à les accompagner, aussi accompagner des jeunes à reprendre. Même des sociétés extérieures en croissance externe dans notre réseau. Et ça, on est hyper fiers.
Eh bien, Sylvain, un dernier mot pour la fin de votre côté, ou bien est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on a fait le tour sur Baby Shoe Service?
Non, on démarre la semaine parfaitement avec un podcast très intéressant, donc super.
Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec une autre enseigne d'un autre secteur. En attendant, comme toujours, tous nos podcasts sont à retrouver sur la plateforme CDI Podcast et toutes les plateformes de streaming. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.